Chers amis, aujourd'hui encore, je vais vous parler de la science moderne. Parfois, lorsque nous lisons très rapidement des revues scientifiques concernant le corps humain et les récentes découvertes le concernant, nous pouvons, pendant quelques instants, avoir des doutes concernant l'existence de Dieu. Heureusement, cela ne dure que quelques instants, car compte tenu de la complexité de tous les organes du corps humain, seul un être supérieurement intelligent, ou plutôt une intelligence unique, peut avoir fabriqué une telle merveille. Et encore une fois, la science soutient notre foi. La science soutient notre foi. De cela, mes chers amis, je vous ai déjà donné plusieurs exemples. Mais aujourd'hui, je vais aller encore plus loin. Ainsi, le numéro hors série de juin 2016, publié par la revue Science et Vie, expose de nombreux sujets liés à la vie humaine, tous plus étonnants, voire plus mystérieux les uns que les autres. Incontestablement, nous nous demandons, mais comment cela est-il possible? Qui a pu inventer, puis fabriquer et diriger de tels organes? Incontestablement, tous dotés d'intelligence, de possibilités de choix possibles et de prudence dans l'exercice de leurs fonctions. Et tout cela compte tenu de l'environnement. Mais, parmi tous ces sujets stupéfiants, il en est encore un plus mystérieux, notre identité personnelle. Qu'est-ce que notre identité personnelle? C'est ce qui nous distingue des autres hommes. Or, il y a actuellement plus de 7 milliards d'hommes sur la Terre, et ils sont tous différents. Chaque homme est unique, et cela s'applique même aux vrais jumeaux. Alors, qu'est-ce qui nous différencie les uns les autres? Notre visage, oui, mais surtout notre empreinte digitale utilisée comme nécessité juridique. De plus, nous connaissons maintenant les qualités de l'ADN. Chaque homme a son propre ADN, et cela est si vrai que la justice étudie les ADN qui ont été laissés sur des objets pour retrouver notamment des coupables. Notons toutefois ici qu'il y aurait une chance sur 43 milliards pour que deux ADN soient identiques, c'est-à-dire pratiquement aucune chance. Mais ce n'est pas tout. L'iris de nos yeux serait également propre à chacun d'entre nous. Il en serait de même pour la rétine, dont les vaisseaux sanguins tracent un motif complexe, mais unique pour chaque homme. La voix de chaque homme est également unique, car, je cite, « le timbre et la mélodie sont intimement personnels ». Et là, il faut évidemment citer les nouveaux-nés, qui reconnaissent instantanément la voix de leur mère. Notre odeur aussi, celle qui émane de la sueur produite par des glandes invisibles, est unique. D'autres exemples sont cités par la revue, mais je pense, mes chers amis, que vous êtes déjà assez surpris. Oui, chacun de nous est unique, chacun de nous a été pensé, façonné, ému intérieurement d'une façon unique. Et tout en nous fonctionne admirablement. Oui, nous sommes plus que surpris, nous sommes troublés. Comment cela a-t-il pu être réalisé? Quelle intelligence a pu réaliser de telles merveilles et en si grand nombre? Nous répondons immédiatement « Dieu ». Mais comment les athées peuvent-ils répondre au moins intérieurement? Mes amis, je voudrais aller avec vous encore plus loin dans cette réflexion. Quittons l'espèce humaine. Les animaux et les végétaux qui sont, à notre échelle, ceux que nous pouvons voir ou entendre, peuvent aussi nous réserver bien des surprises. Ainsi, avez-vous déjà regardé de très près un petit insecte, par exemple un moustique? Lui aussi, comme tous les insectes, a des yeux, un corps et des pattes. Et dans ces pattes, que nous discernons à peine, il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs et de la chair. Et tout cela fonctionne parfaitement. Ils permettent à l'insecte de se déplacer et de choisir ce qui lui donnera la nourriture dont il a besoin. Vraiment, nous frémissons. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et que signifie l'expression « Dieu est infiniment grand » Suivons un peu les astronomes. Ils découvrent constamment de nouvelles choses et nous en sommes arrivés à la certitude qu'il y a des milliards de galaxies, donc des milliards de systèmes solaires. et cette immensité s'agrandit de plus en plus et s'étend vers un au-delà non maîtrisable. Parfois, nous avons peur. Que sommes-nous sur cette microscopique petite terre qui n'est elle-même qu'un point infime dans l'infini de la création? Et que représente un homme sur cette terre au milieu des 7 milliards d'autres hommes? Notre infinie petitesse nous fait perdre pied. Comment imaginer un Dieu créateur de l'infini astronomique infiniment plus grand que sa créature? Nous tremblons de plus en plus. Mais il y a pire. Nous ne sommes strictement rien dans l'infini de la création. Et pourtant, on dit que Dieu nous connaît. Comment Dieu peut-il connaître chacun de nous individuellement? Mes amis, le mystère est grand. Et pourtant, vous allez découvrir que notre place dans la création est relativement facile à détecter. Nous commençons à comprendre l'infiniment grand. Mais les savants physiciens des particules, eux, sont en train de naviguer dans l'infiniment petit, c'est-à-dire à une échelle tellement petite qu'il nous est impossible de l'imaginer. En effet, dans l'infiniment grand dont nous parlons, nous pouvons, par exemple, donner la distance entre deux systèmes solaires, et pour cela, nous utilisons une unité exprimée en années-lumière. Et nous dirons, par exemple, cette distance est de 10 puissance 40 années-lumière. Mais dans l'infiniment petit, nous choisirons le mètre comme unité de base, et nous parlerons d'une distance de 10 puissance moins 40. Nous, qui ne sommes pas spécialistes, nous voulons bien croire les savants physiciens. Mais quand ils nous parlent de muons, de neutrons, de gluons, de hadrons, de bosons, etc., nous ne comprenons rien. Et si à cela nous ajoutons l'antimatière, ou si nous consultons des sites internet scientifiques, nous découvrons que nous ne connaissons que 4% de l'univers. De nouveau, nous avons peur. Au passage, pour ceux qui l'auraient oublié, je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Or, la vitesse de la lumière étant de 300 000 km par seconde, une année-lumière égale 9 461 milliards de kilomètres, soit plus de 500 fois la taille de notre système solaire. Incontestablement, nous avons peur. Et voici que soudain nous pensons que nous les hommes, nous nous situons au milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc nous sommes comme au cœur de la création. Si nous sommes au cœur de la création, nous sommes forcément au cœur de Dieu. C'est logique. Nous sommes au cœur de Dieu et nous savons que Dieu nous aime. Dieu nous aime car nous sommes en lui, entre les deux infinis, les infiniment grands et les infiniment petits. Nous sommes en Dieu, dans le cœur de Dieu, et nous aimons Dieu qui nous aime. Oui, nous sommes infiniment dépassés et pourtant en équilibre. Un équilibre lui aussi indéfinissable et fragile et pourtant réel. Mais un autre problème surgit, c'est celui du temps. Nous les hommes, nous vivons dans le temps terrestre. Nous nous y sentons bien car nous sommes habitués à compter nos jours, nos années et nos âges. Mais quand on nous dit que Dieu, éternel présent, est hors du temps, nous nous sentons de nouveau perdus. Pourtant, réfléchissons un peu et considérons quelques hypothèses posées par les savants. J'ai lu il y a quelque temps que si un homme pouvait partir très loin dans l'espace, avec évidemment une machine adaptée qui n'existe pas encore, s'il mettait quelques mois pour atteindre son but, revenant sur la Terre quelque temps plus tard, il ne reconnaîtrait plus la Terre qui aurait vieilli de près d'un million d'années. Quant à ce qui se passe au niveau du temps, dans l'infiniment petit, je dois avouer que je n'en sais rien. Par contre, nous constatons tous que les petits animaux, dont les insectes, ne vivent que très peu de jours et leur vie est complète et ils se multiplient. Alors, nous comprenons enfin que Dieu ne peut être qu'en dehors des temps liés à l'univers matériel, qu'il soit infiniment grand ou infiniment petit. Notre intelligence humaine n'en peut plus. Elle retourne à sa foi, à l'Évangile, à la confiance et à l'espérance. Alors, un peu réconfortés et rassurés, nous nous disons, comment les athées peuvent-ils continuer à vivre ? Ont-ils un peu réfléchi à la sottise de leurs convictions? Heureusement, nous avons la foi, une foi solide que la science moderne conforte. Et nous disons encore une fois, merci, merci la science moderne.